RCF. 7h30, l'heure du journal présenté par Marion Torquebio. Bonjour Marion.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
L'Allemagne pourrait annoncer dès aujourd'hui la livraison de ses chars.
Une révélation hier soir de deux journaux allemands. Le chancelier Olaf Scholz pourrait annoncer l'autorisation de ses chars Léopard 2 aujourd'hui, alors que l'Ukraine les demande urgemment. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le président ivoirien Alassane Ouattara. L'occasion de discuter des récents événements au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire pourrait jouer les intermédiaires dans cette crise. Et les sénateurs ont approuvé hier soir le volet sécurité du projet de loi olympique de Paris 2024. Nous verrons en détail ce que ce projet contient.
L'Allemagne va-t-elle finalement livrer des chars à l'Ukraine ?
Ces fameux chars Léopard 2 que l'Allemagne refusait de livrer jusqu'alors, malgré des demandes insistantes de ses voisins européens, comme la Pologne ou la France. Du côté français, Emmanuel Macron avait déclaré dimanche lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand ne rien exclure concernant la livraison de chars Leclerc à l'Ukraine. Deux médias allemands ont assuré hier qu'Olaf Scholz pourrait en faire de même et donner son feu vert à la livraison de Léopard 2. Les précisions d'Océane Théard.
Peut-être un premier pas pour Berlin. L'Allemagne a entrouvert la voie à une autorisation pour les pays alliés de livrer ses chars lourds Léopard 2. Ces chars sont expressément demandés par l'Ukraine afin de pouvoir répondre aux attaques et aux frappes de la Russie. Hier soir, le magazine Der Spiegel et la chaîne d'information NTV ont même assuré que le chancelier allemand Olaf Scholz allait donner son feu vert aujourd'hui. Jusqu'alors, le blocage était total du côté allemand. Un blocage juridique d'abord. La revente de ce type de matériel nécessite un accord à la fois du fabricant mais aussi de l'acheteur et du pays producteur, mais un blocage surtout politique, car le processus d'autorisation de livraison de ces chars doit être signé par le ministre de l'économie et les ministères des affaires étrangères, de la défense et la chancellerie y sont également associés. Olaf Scholz devrait s'exprimer à midi devant le Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, pour autoriser la livraison. Selon certains analystes, l'Allemagne donnerait aussi son accord à la Pologne, qui souhaite également livrer des chars Léopard 2.
À noter que le Wall Street Journal a également annoncé que les États-Unis envisageraient finalement de livrer à Kiev des chars d'assaut Abrams.
Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui son homologue ivoirien Alassane Ouattara.
Un déjeuner de travail est prévu à l'Elysée entre les deux chefs d'État. Le sujet de prédilection devrait être un autre pays africain, le Burkina Faso. Ce week-end, la junte burkinabé avait demandé le départ des forces spéciales françaises sur place. La Côte d'Ivoire, voisin et partenaire important du Burkina Faso, pourrait jouer les intermédiaires dans cette crise. Plus largement, les deux présidents évoqueront la sécurité dans la région, toujours en proie aux attaques djihadistes. La Côte d'Ivoire reste un partenaire stratégique, important pour la France malgré des fragilités, relève Michel Galli, politologue et spécialiste de la Côte d'Ivoire.
Officiellement, le régime d'Alassane Ouattara tient en quelque sorte grâce à l'alliance avec la France et notamment les forces françaises qui sont basées à Abidjan. C'est protégé en quelque sorte des incursions djihadistes qui ont essayé à plusieurs reprises d'entrer au nord-est de la Côte d'Ivoire. Mais par ailleurs, il y a des signes de fragilité, ne serait-ce que parce qu'il y a des millions de ressortissants du Sahel, du Burkina et du Mali qui effectivement ont des sympathies avec les régimes militaires de Bamako et de Ouagadougou. Vous mettez avec cela des élections précédentes contestées en Côte d'Ivoire. Donc beaucoup d'observateurs pensent que le pays est structurellement fragile, même si pour le moment l'opposition est relativement neutralisée, en tout cas légaliste, et attend les prochaines élections locales.
Enfin, l'économie devrait être également au menu des discussions. La Côte d'Ivoire est en passe de devenir le premier partenaire africain de la France en matière d'investissement devant l'Afrique du Sud.
7h34, à 548 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est une nouvelle étape dans l'organisation de l'événement le plus suivi de la planète.
Les sénateurs ont approuvé hier soir le volet sécurité du projet de loi olympique de Paris 2024. Au programme notamment, l'ouverture des commerces de la capitale le dimanche de juin à septembre. Mais c'est surtout le volet sécurité qui inquiète. Vidéosurveillance massive, scanner corporel, caméra augmentée, le texte de loi olympique porte atteinte aux libertés, selon Alouette, membre de la Quadrature du Net.
Ça donne un pouvoir de plus à la police ou aux agents de sécurité en général. Ça donne un pouvoir qui est assez important, en fait, de pouvoir à tout moment voir ce qui se passe dans la rue et tout ce qui n'est pas considéré comme étant un phénomène normal. Mais en fait, c'est quoi la normalité ? Là, c'est des entreprises privées qui développent ces algorithmes-là. Donc, ils sont très opaques. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Ces logiciels, ils visent à détecter nos corps, les corps qui sont dans la rue, qui sont dans l'espace public. Ça va d'abord cibler les populations qui restent le plus dans la rue. Ça vise la détection, du coup, de maraudage, donc des gens qui sont statiques, des gens qui sont allongés, des gens qui se regroupent. Ça pose plein de questions pour nos libertés publiques. Et il y a un phénomène aussi de surveillance généralisée qui est très inquiétant.
En décembre dernier, le Conseil d'État soulignait que 11 des 19 mesures du texte présentaient un caractère permanent, c'est-à-dire conçu pour s'appliquer en dehors de la période des Jeux.
Une possible légalisation encadrée pour le cannabis.
Le Conseil économique, social et environnemental s'est prononcé hier à une légalisation encadrée du cannabis en France. Un avis rendu après plus d'un an de travail et d'écoute des professionnels concernés sur le terrain. Cet organe consultatif fait en effet le constat d'une inefficacité des politiques françaises sur le cannabis en termes de santé publique. Le Conseil recommande notamment de créer un Institut national du cannabis pour développer la recherche et diffuser une information claire sur cette drogue. Ce sont pour l'instant de simples recommandations que le gouvernement n'est pas obligé de suivre. Le président français, de son côté, n'a jamais été clair sur sa position face à cette drogue. Éric Ciotti a présenté hier ses vœux aux Républicains. L'objectif, essayer de rassembler le parti autour de la réforme des retraites. Mais le président de LR s'est dit conscient des divergences au sein même de son parti. Certains députés, comme Aurélien Pradier, menacent de ne pas voter un texte qu'ils trouvent injuste, notamment pour les plus modestes et les carrières longues.
La crise de l'énergie n'en finit pas de faire des dégâts.
Elle touche aussi les bailleurs sociaux et par ricochet, les locataires des HLM. Par exemple, le bailleur social Habitat Marseille-Provence vient d'annoncer que les charges tripleront le mois prochain. En cause, les prix de l'énergie. Hier matin, pris à la gorge, des locataires des quartiers nord ont manifesté. Reportage de Nina Pavant.
Au pied des grandes barres d'immeubles défraîchis, ils sont une cinquantaine réunis devant le siège de leur bailleur. Armande fait vite le calcul. Avec sa petite retraite, elle ne peut pas payer plus.
De 30 euros, je passe à 84 euros. On est retraité depuis 15 ans, on a travaillé, on a fait ce qu'il fallait. Et on se retrouve le dos au mur. On n'arrive plus à s'en sortir.
À côté d'elle, deux de ses voisines. Pour elle, vu l'état de l'immeuble, ce n'est pas entendable que les charges augmentent.
Le soi-disant chauffage qu'ils nous mettent, c'est mal isolé. On est gelé, gelé comme jamais.
50 ans, j'habite ici à Prévalent. On n'a pas de gardien, on vit avec les rats, on vit avec les cafards, ils soignent quoi.
Devant les locaux du bailleur Habitat Marseille-Provence, les habitants prennent une décision. Ils ne paieront pas 1 euro de plus et se donnent déjà rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à se faire entendre.
Un reportage de Nina Pavant de Dialogue RCF à Marseille.
À vos crayons, le centre de la culture savoyarde de Conflans lance son 7e concours de patois.
En classe, en famille ou en solitaire, tout le monde est invité à écrire une histoire, une anecdote, un poème ou une chanson. Ce concours permet de mettre en valeur une langue qui tend à disparaître. Une nécessité pour Pierre Barrioz, membre du Centre de la culture savoyarde.
Alors l'objectif, c'est de faire vivre le patois. Beaucoup de gens se plaignent, déplorent que le patois soit très peu parlé, même par ceux qui le parlent et qui le connaissent, qui le parlent parfois entre eux, mais cela reste souvent un peu confidentiel. Il reste beaucoup de parfois de honte chez les anciens. Le patois était dévalorisé, il était même interdit à l'école avec des sanctions. Les patoisans hésitent beaucoup à parler et encore moins à l'écrire. Et pourtant, le fait d'écrire, ça peut aider à parler le patois. Ce qu'on recherche dans ce concours, c'est retrouver l'essence même, l'authenticité du patois, c'est-à-dire tel qu'on le parle et tel qu'on l'entend. L'important, c'est d'écrire quelque chose, de se faire plaisir à écrire quelque chose.
Et donc, vous avez jusqu'au 1er avril pour participer en envoyant votre écrit au Centre de la culture savoyarde. Donc, une histoire, une anecdote, un poème ou une chanson. Plus de 25 groupes de patois existent sur les Savoies.
Alors, j'ai appris en plus le week-end dernier qu'en Haute-Savoie, il y a des villages qui sont parfois proches de 1 ou 2 kilomètres et qui ont des patois différents entre eux.